Rachel. Samedi 10 août 2013. Matin. Je me réveille tôt. J'entends le camion du recyclage remonter lentement la rue et la pluie tapoter contre la vitre. Le store est à moitié remonté, on a dû oublier de le fermer hier soir. Je souris. Je le sens derrière moi, endormi, tout chaud et dur. Je tortille des hanches pour me serrer un peu plus contre lui. Bientôt, il va s'étirer, m'attraper et me tirer vers lui. « Rachel !» dit une voix. « Non. » Ces mots me glacent. « Je ne suis pas chez moi. Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas normal. » Je me retourne. Scott s'est assis. Il fait glisser ses jambes hors du lit, dos à moi. Je ferme fort les yeux pour tâcher de me souvenir, mais tout est trop flou. Quand je les ouvre, j'arrive à penser calmement, parce que c'est la pièce dans laquelle je me suis réveillée un millier de fois ou plus. Le lit est à sa place, la pièce est la même. Si je me redresse, je pourrai apercevoir la cime des chênes de l'autre côté de la rue. Là, sur ma gauche, la porte de la salle de bain et, à droite, l'armoire encastrée dans le mur. C'est la chambre que je partageais avec Tom. « Rachel !» dit-il encore. Je tends une main pour lui effleurer le dos, mais il se lève rapidement pour me faire face. Il semble inhabité, comme la première fois que je l'ai vu de près au commissariat. Comme si on lui avait retiré toute sa substance pour ne laisser qu'une coquille vide. Cette pièce est la même que la chambre que je partageais avec Tom, mais c'est celle qu'il partageait avec Megan. Cette chambre, ce lit. « Je sais, » dis-je. « Je suis désolée. Vraiment, ce n'était pas bien. Non. » Il refuse de croiser mon regard. Il va dans la salle de bain et ferme la porte derrière lui. Je me rallonge, ferme les yeux et me laisse envahir par l'effroi qui me ronge les entrailles. Qu'ai-je fait ? Je me souviens qu'il n'arrêtait pas de parler quand je suis arrivée, un flot de paroles. Il était en colère, contre sa mère, qui n'avait jamais aimé Megan, contre les journaux, à cause de ce qu'ils écrivaient sur elle, à insinuer qu'elle méritait ce qui lui était arrivé, contre la police pour avoir bâclé l'enquête, pour avoir failli à sa mission envers elle, envers lui. On s'est assis dans la cuisine pour boire une bière et je l'ai écouté. Puis, quand on a eu fini, on est allé s'installer sur la terrasse et là, il a cessé d'être en colère. On a bu en regardant passer les trains, en parlant de tout et de rien. La télé, le travail, l'université où il avait fait ses études, comme des gens normaux. J'ai oublié de ressentir ce que j'aurais dû ressentir. Nous l'avons tous les deux oublié. Je m'en souviens maintenant. Je me souviens quand il m'a souri, quand il a effleuré mes cheveux. Ça me frappe comme un tsunami, et le sang me monte au visage. Je me souviens du moment où j'ai accepté cette idée. Où j'ai formulé cette pensée sans la repousser, où je l'ai accueillie à bras ouverts. J'en avais envie. J'avais envie d'être avec Jason, de ressentir ce que Jess ressentait quand elle était assise là avec lui le soir, avec un verre de vin. J'ai oublié ce que j'étais censée ressentir. J'ai ignoré le fait que, au mieux, Jess n'est rien de plus que le fruit de mon imagination. Et que, au pire, Jess n'est pas rien, elle est Megan. Une femme disparue, battue à mort, qu'on a laissée pourrir dans les bois. Pire, je n'ai pas oublié. Ça m'était égal. Ça m'était égal parce que j'avais commencé à croire ce qu'on disait sur elle. Est-ce que, moi aussi, ne serait-ce qu'un instant, j'ai pensé qu'elle méritait ce qui lui était arrivé? Scott ressort de la salle de bain. Il a pris une douche. Il s'est débarrassé de mon souvenir. Ça semble lui avoir fait du bien. Mais il ne me regarde pas dans les yeux quand il me propose un café. Ce n'est pas ce que je voulais, ça ne va pas du tout. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas perdre à nouveau le contrôle. Je me rhabille rapidement et vais à la salle de bain pour me passer de l'eau froide sur le visage. Mon mascara a coulé, il fait des paquets au coin de mes yeux, et j'ai les lèvres sombres, mordues. J'ai des taches rouges sur le visage et le cou, là où les poils de son menton m'ont irrité la peau. Une image de la nuit dernière me revient soudain. Ses mains sur moi, et mon estomac bondit. Je m'assois au bord de la baignoire pour faire passer mon vertige. La salle de bain est plus sale que le reste de la maison. Il y a de la crasse autour du lavabo et du dentifrice étalé sur le miroir. Une tasse avec une brosse à dents. Pas de parfum, pas de crème hydratante, pas de maquillage. Je me demande si elle a tout emporté en partant ou si c'est lui qui a tout jeté. De retour dans la chambre, je cherche une preuve de sa présence. Une robe accrochée derrière la porte, une brosse à cheveux sur la commode, un pot de baume à lèvres, une paire de boucles d'oreilles. Mais non, rien. Je traverse la pièce vers l'armoire et je m'apprête à l'ouvrir, la main sur la poignée, quand la voix de Scott me fait sursauter. « Le café est prêt !» En bas, il me tend une tasse, toujours sans me regarder. Puis il se détourne et se poste devant la fenêtre, dos à moi, les yeux fixés sur les rails ou autre chose. D'un coup, je m'aperçois que les cadres photos à ma droite ont disparu. Tous. J'ai soudain des fourmis dans la nuque et les poils de mes bras se hérissent. Je prends une gorgée de café que je peine à avaler. Ça ne va pas du tout. Peut-être que c'est sa mère qui a tout enlevé. Elle n'aimait pas Meghan et n'a pas arrêté de me le répéter. Mais je repense à hier. Tout de même, quel genre de personne ferait une chose pareille? Quel genre de personne baiserait une inconnue dans le lit conjugal alors que sa femme est morte depuis moins d'un mois? Il se retourne alors pour me faire face et j'ai l'impression qu'il a lu dans mes pensées. Parce qu'il a une expression singulière, du mépris ou de la répulsion, et moi aussi, il me révulse. Je repose ma tasse. Je ferais mieux d'y aller. Il ne me retient pas. La pluie s'est arrêtée. Dehors, le soleil brille, et je dois plisser les yeux dans la brume claire du matin. Un homme s'approche de moi. Il vient se poster à quelques centimètres de mon visage dès l'instant où je pose le pied sur le trottoir. Je lève les mains, tourne, et d'un coup d'épaule, le dégage de mon chemin. Il me dit quelque chose, mais je n'entends pas quoi. Les mains levées et la tête baissée, ce n'est que lorsque je suis à moins de 2 mètres d'elle que j'aperçois Anna, devant sa voiture, les mains sur les hanches qui m'observent. Quand elle croise mon regard, elle secoue la tête, puis tourne les talons pour marcher jusqu'à sa porte d'entrée, presque au pas de course. Je reste immobile une seconde, à suivre sa silhouette légère vêtue d'un legging noir et d'un t-shirt rouge. J'ai une forte impression de déjà-vu. Ce n'est pas la première fois que je la vois s'éloigner ainsi de moi. C'était juste après mon déménagement. J'étais venue voir Tom, récupérer quelque chose que j'avais oublié. Je ne me souviens pas de quoi, ça n'avait aucune importance de toute façon. Je voulais juste passer à la maison et le voir. Je crois que c'était un dimanche, et j'avais déménagé le vendredi, ça faisait donc 48 heures. Arrivée dans la rue, j'ai vu Anna qui transportait des affaires d'une voiture jusque dans la maison. Elle emménageait alors que j'étais à peine partie. Elle ne devait pas s'inquiéter du qu'en dira-t-on. Elle m'a aperçue et je me suis dirigée vers elle. Je ne sais pas ce que je comptais lui dire. Rien de très rationnel, c'est certain. Je pleurais, ça, je me le rappelle. Et comme aujourd'hui, elle est partie en courant. À ce moment-là, je ne savais pas le pire. La grossesse ne se voyait pas encore. Dieu merci, je crois que je serais morte sur place. Tandis que j'attends le train sur le quai, je suis prise d'un vertige. Je vais m'asseoir sur un banc et j'essaye de me rassurer. Ce n'est qu'une gueule de bois. 5 jours sans boire, puis une cuite, et voilà. Mais je sais que ce n'est pas uniquement ça. C'est Anna, cette image d'elle, et ce que j'ai ressenti en la voyant s'éloigner comme ça. De la peur.